nous sommes trois professionnelles virtuelles et en isolation en éducation.
Jennifer Mansell-Davies,
Mylène Brassard
et Vicky Fauteux sommes toutes chez nous, derrière nos écrans, dans cette nouvelle réalité sans précédent.
Dans cette série en confinement, nous parlerons de sujets tels que le lien affectif, la planification, l'évaluation et bien plus encore.
Et cette fois-ci, dans le contexte de l'enseignement à distance.
Bonjour Mylène, bonjour Jennifer.
Allô Vicky.
Allô Vicky.
Ça va bien?
Très
toujours.
Bien.
Cette semaine, nous avons un épisode qu'on va faire un petit genre de retour sur notre expérience durant les derniers mois. On ne sait pas ce que le futur nous réserve, mais sauf qu'on sait qu'au mois de septembre, on aura besoin de faire de l'enseignement, que ce soit sous une forme ou une autre, que ce soit même si tout le monde est à l'école, ce sera aussi sous une forme ou une autre. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, mais on sait qu'on aura besoin d'enseigner.
Alors, ça fait depuis 3 mois que nous sommes plongés dans cette nouvelle réalité. Et comme on avait dit souvent, durant ces 3 derniers mois, ça nous a vraiment permis de non seulement, oui, évidemment, apprendre quelques nouveaux outils, mais surtout de revisiter des outils qu'on utilisait déjà en salle de classe, des outils technologiques qu'on utilisait déjà en salle de classe qui fonctionnaient très bien. Et ce que nous avons l'intention de faire cette semaine, c'est de vraiment faire un retour et de faire un tour de table, de discuter vraiment de nos coups de cœur, de, comme j'avais dit tantôt, des outils qu'on utilisait déjà, mais qu'on a redécouverts, puis aussi de nouvelles découvertes.
Commençons à la base. On a appris plein de nouveaux outils, des outils que probablement on utilisait déjà en salle de classe, mais il y a beaucoup d'autres outils qu'on a appris. Première question pour vous, c'est quel est votre outil préféré? Quels sont les outils que vous pensez que vous pouvez transférer en salle de classe en personne? Et comment est-ce que vous pensez que ça va transformer l'enseignement dans la salle de classe?
Bien, la question est large, mais je dirais pour commencer que je vais commencer avec un outil qui est aussi large que la question, ce qui est Teams. Parce que nous, dans notre conseil, c'est ce qu'on a utilisé comme plateforme pour l'enseignement à distance. Dans d'autres conseils, ce serait Google Classroom qui serait très similaire. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont vu que, premièrement, pour l'organisation des documents, des devoirs, des preuves d'apprentissage, c'est très, très utile. Je viens de parler avec un enseignant qui m'avait dit que, tu sais, juste l'idée d'un élève peut commencer à faire un travail à l'école puis le terminer à la maison parce que les documents sont toujours au même endroit. Et aussi pour l'aspect de vidéoconférence, que ce soit en salle de classe ou que ce soit à distance si on a un modèle hybride. Et aussi pour la communication avec les parents. Alors, j'ai beaucoup dit, puis je pense qu'on va entrer là-dedans un peu plus en profondeur pendant la discussion, mais je pense qu'il y a beaucoup de belles fonctionnalités dans Teams qu'on pourrait continuer à utiliser en salle de classe. Mylène?
J'ai l'impression que c'est une question piège, parce que je peux
pas dire... Parce que tu veux dire book reader.
Je veux dire book reader, mais je veux aussi dire... Il y a plein de choses qui ont été des coups de cœur pour moi. Beaucoup étaient connues. Il y a des choses que j'avais montrées à des profs dans les années passées et tout. Mais mon grand coup de cœur, c'est cette relation qui a été établie entre l'enseignant et l'élève. Alors, tout ce un à un, tout ce petit groupe qu'on a vécu, ça, c'est génial. Et c'est des choses qu'on souhaite en salle de classe, mais que c'est pas toujours possible parce que quand on a 30, quand on a 25, quand on a 20... Ben, il faut que les autres soient occupés pour être capables de faire ça. Fait que c'est un avantage. Je pense qu'on a pris goût à ces petits groupes-là et qu'éventuellement, quand on va être en salle de classe ou en modèle hybride ou en peu importe, je pense que ça va être important pour nous de mettre tout en notre pouvoir pour être capable de reproduire un modèle similaire où je peux travailler avec un petit groupe pendant que les autres sont occupés.
Bien, en parlant de petits groupes, une chose que j'avais mentionnée la semaine dernière, c'est que lorsque nous serons de retour en salle de classe, il y aura quand même de la distanciation entre les élèves. Alors, pour le travail en petits groupes, même s'ils sont dans la même salle, ça se peut que le travail en petits groupes se fasse dans un monde virtuel. Alors, les élèves pourraient être à 2 mètres l'un de l'autre, mais pour la collaboration, ils seraient quand même chacun à leur leur appareil, leur portable. Puis, tu sais, même chose pour l'enseignement. L'enseignant pourrait quand même bénéficier du fait qu'on peut voir la même chose sur l'écran tous en même temps. Alors, si toute la classe, si tout le monde a un portable, puis le prof utilise quand même Teams ou une autre plateforme pour que tout le monde voit la même chose en même temps, pour que tout le monde collabore dans la même chose en même temps, parce qu'au lieu d'aller t'approcher de ton élève puis te mettre, tu sais, au-dessus de leur épaule puis regarder ce qu'ils font à 10 cm de l'élève, il faut quand même que même l'enseignant garde la distance, maintienne une distance entre lui puis l'élève. Alors, de voir ce que les élèves sont en train de faire de façon électronique va être utile.
Mm-hmm. Ouais. Puis pour garder des suivis, trouver, garder des traces de tout ça, parce qu'il y a des enseignants qui m'ont dit, hey, pour écrire les bulletins, si ce n'était pas de ces petits groupes-là ou de ces rencontres individuelles, ça serait vraiment dur de pouvoir dire où situer l'enfant dans son progrès. Fait que ça l'aide beaucoup, parce que c'est pas vrai qu'en grand groupe, les enfants contribuent de la même façon comme ils contribuent en petit groupe. Alors, c'est important de le garder en tête aussi.
Et ça me fait penser à un autre outil qu'une enseignante, Maryse Paquette de Gabriel Dumont, avait mentionné qu'une chose qu'elle va sûrement utiliser l'année prochaine, c'est Forms. De deux façons, elle l'utilise comme genre biais de sortie ou évaluation au service de l'apprentissage pour savoir qu'est-ce que les élèves ont compris de la leçon, mais aussi pour les sonder. Parce que, comme tu avais dit, les élèves agissent d'une façon différente en grand groupe, en petit groupe, en individuel. Alors, quand ils peuvent répondre à des questions de façon individuel, puis, tu sais, parfois tu peux mettre des choses à l'écrit que tu ne peux pas dire face à face à ton enseignante. Alors, elle avait trouvé que c'était vraiment une bonne façon de prendre le pouls de la classe.
Je pense qu'un outil qui est similaire aussi pour avoir le pouls des élèves, mais aussi de les garder actifs pendant cet enseignement magistral, parce qu'on le sait que l'enseignement magistral, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas l'idéal, mais ultimement, on sait qu'il va en avoir dans nos leçons quand même, c'est comme dans nos journées. Mais si on ajoute un Pear Deck, on ajoute un Nearpod à cet enseignement magistral-là, on peut garder les enfants actifs dans ce qu'on est en train de proposer tout au long de la leçon, mais aussi, comme tu dis, avec le form, on peut aller chercher leur pouls. Bon, qu'est-ce que tu as compris de ça? Qu'est-ce que tu vois de ça? Puis l'enfant qui dort, l'enfant qui rêve, l'enfant qui est pas complètement présent, ben on va le voir tout de suite, puis on peut intervenir à ce niveau-là. Fait que ça, c'est des beaux outils qui nous permettent de faire ça.
Oui, parce que dans la salle de classe traditionnelle, moi, ce que j'aimais faire pour que les élèves restent éveillés, c'était de, tu sais, parler de quelque chose, puis dire, OK, en petit groupe, vous êtes à une table de quatre, mettez-vous d'accord sur une définition du triangle isocèle. Parce que je viens d'en parler, je veux m'assurer que tout le monde a compris. Ou je leur donnais, tu sais, des ardoises, puis tout le monde doit me faire un dessin d'un triangle isocèle pour voir ce qu'ils étaient capables de me dire, mais aussi pour que ce soit interactif. Mais encore une fois, si les élèves doivent avoir tout leur matériel et doivent rester à leur place pendant la majorité de la journée, on peut pas aller chercher, tu sais, des affaires puis revenir. On n'aura pas de petit groupe. Alors, encore une fois, comme tu avais dit, bonne façon de remplacer ce qu'on faisait avant.
J'ai plusieurs commentaires à dire. Comme premièrement, je trouve que, tu sais, pour revenir à ton commentaire, Jen, de l'utilisation de Teams puis d'organisation des preuves d'apprentissage, mais en fait, Mylène, t'as aussi mentionné ça. Je trouve que c'est tellement un bel ajout à nos pratiques. Puis on avait parlé de ça dans un ancien épisode. C'est que, tu sais, on se sent toujours comme inondé de papiers, de choses, puis on sait pas comment les organiser. Tandis que sur une plateforme électronique, ça nous permet à nous organiser mieux. Alors, quand ça vient du temps de bulletin, comme Mylène, tu l'as tantôt, ça devient tellement une tâche tellement facile.
Alors, une autre chose aussi que j'aime énormément dans ce qu'on est en train de faire maintenant, puis que j'espère qu'il va rester quand on va retourner en salle de classe, c'est tout ce qui est ludification des apprentissages. Parce qu'on est en ligne, il y a plein de sites Internet, de plateformes qui nous permettent d'apprendre en jouant. Parce qu'on sait que jouer, c'est la clé pour que les apprentissages restent, surtout chez les petits, mais aussi chez les grands. Alors, si on se dit que, bon, que tout revient à la normale, dans mes centres, je peux avoir un centre sur Zorbit, par exemple. Je peux avoir un centre sur Explique-moi ta pensée avec Padlet. Je peux avoir un centre qui devient un tingling classe inversée avec les éléments de notions ou les concepts à travailler qui vont être en ligne pour être capable de les réinvestir. Ce qui fait que ça l'ajoute énormément, mais tout ça se fait de manière agréable, de manière ludique, dans le plaisir. Ce qui fait que pour l'enseignant, son rôle change énormément. Au lieu d'être transmettre les informations, il devient un guide, un facilitateur au niveau des apprentissages. Puis ça, ultimement, c'est ça qu'on veut.
Oui, et il faut se rappeler aussi des applications où l'élève est un créateur de contenu. Parce qu'on ne veut pas juste que les élèves consomment, tu sais, des jeux, des pratiques, des drills, des applications de, tu sais, pratiquer tes tables de multiplication, quoi que ce soit. On veut aussi que l'élève utilise des applications comme ThingLink, comme Adobe Spark, Adobe Video, pour créer quelque chose. Parce que comme on avait vu dans le passé, Mylène et moi, on avait fait un projet sur les iPads en salle de classe, où les élèves créaient des vidéos, créaient des images interactives, mais démontraient leurs apprentissages de plusieurs façons. Puis les élèves étaient beaucoup plus motivés parce qu'il y avait de la collaboration, ce qui n'est pas nécessaire. Si c'est pas possible en ce moment, ils peuvent le faire de façon individuelle aussi. Mais comme ça, leurs projets vont plus loin que la publication et vont plus loin que l'évaluation. Ça va jusqu'à la diffusion. Que ce soit sur CISA, que ce soit dans le Teams de la classe, que ce soit sur un blog, que ce soit sur YouTube, mais il y a d'autres gens qui peuvent voir le produit final.
Et ça, ultimement, c'est la motivation la plus grande, je pense, de savoir que ce que je suis en train d'écrire, ça va être lu. Que l'intention ultime que je m'assois de la tâche d'écriture, c'est que quelqu'un me lise, et bien la diffusion permet ça. C'est pas, je vais pas écrire un conte fantastique que ça m'a pris 3 semaines à écrire et que sur ces 3 semaines, 7 jours, c'était juste pour le mettre au propre et que quand j'ai fini, c'est rangé sur la belle tablette de madame et que c'est tout. Alors là, quand on diffuse...
Mais la grille adaptée. Ah, ça, c'est le but ultime, c'est que quelque chose va être encerclé sur une grille adaptée.
mais moi, quand j'écris, je veux être lu parce qu'on dit dans nos stratégies d'écriture, dans nos stratégies de lecture, c'est quoi l'intention? Puis on passe beaucoup de temps sur enseigner les intentions, mais ultimement, quand l'enfant finit d'écrire, ben on range son truc. Ben ça, comme on dit en anglais, ça defeat le purpose.
Et comme on dit en anglais, it's fake news.
c'est intéressant, Mylène, tout ce que tu viens de dire, c'est que, évidemment, toi, tu parlais de l'intention de l'écriture, mais je vais le ramener un petit peu en large. Si je ne me trompe pas, durant les derniers mois, on a vraiment couvert beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils. On a fourni beaucoup de formations aux enseignants. On leur a présenté une panoplie d'outils. Mais un commentaire qui est super important à faire, c'est que ce n'est pas vraiment un outil pour tout, où on utilise tout pour faire des réponses, pour organiser, puis tout ça. Oui, il y a certains aspects de différentes pratiques qui vont rentrer dans un outil, mais c'est vraiment important de choisir l'outil selon l'intention pédagogique. Comme un petit peu comme on fait en salle de classe aussi. On va pas aller chercher, par exemple, un triangle isocèle lorsqu'on fait un compte. Bon, peut-être oui, mais en même temps, l'intention est où? Alors oui, c'est vrai qu'il y a une très grande variété d'outils, mais il faut vraiment aller recentrer tout ça avec une intention pédagogique.
Il ne faut pas oublier non plus que dans cette réalité d'enseignement à distance, le temps était court. Alors, c'est les enseignants qui essayaient de maîtriser un outil pour l'utiliser eux-mêmes. Puis, on n'avait pas le contrôle non plus sur ce que les élèves avaient à la maison dans leurs mains. Mais en salle de classe, on peut mettre l'outil dans la main de l'élève parce que c'est encore plus intéressant quand c'est l'élève qui crée le Kahoot, quand c'est l'élève qui crée le ThingLink, quand c'est l'élève qui...
Recueille ses preuves d'apprentissage.
Exactement. Alors, il y a deux niveaux, deux couches d'apprentissage qui se passent quand c'est l'élève qui utilise l'outil. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir recycler, renouveler, comme on dit en anglais, upcycle. On va upcycler les outils lorsqu'on les met dans les mains des élèves et que c'est les élèves aussi qui doivent décider quel est le bon outil. Parce que moi, comme élève aussi, comme Mylène vient de dire, j'ai une intention. Alors, si mon intention est d'expliquer le cycle de l'eau, Est-ce que ce serait mieux d'utiliser Adobe Spark? Est-ce que ce serait mieux de faire une vidéo stop motion? Est-ce que ce serait mieux d'utiliser un ThingLink? Alors, comme élève, je peux décider moi-même quel outil utiliser. Et ça, ça fait partie de la citoyenneté numérique, de savoir quel outil est le meilleur pour la situation. Puis je vois Mylène qui commence à renifler un petit peu parce qu'on a parlé, je pense qu'on a mentionné ThingLink 5 fois déjà ce matin.
Oui, je pense que ça sent là, toute la classe recommande.
C'est ça. Alors, j'ai donné une formation sur ThingLink il y a quelques semaines à nos enseignants. Puis ça, c'est l'outil qui m'est revenu le plus souvent que les gens m'ont dit, j'ai commencé à l'utiliser et je l'adore. Alors, cette semaine, on vous propose ThingLink. Il y aura un petit tutoriel sur notre chaîne Ed Pédago sur YouTube.
Yay!
Yay! Puis, en fait, c'est vraiment intéressant. Le prochain sujet que j'aimerais ça qu'on touche un petit peu, c'est que on avait parlé un petit peu de nos intentions, comment qu'on peut utiliser ces outils-là. Comment est-ce que vous voyez ça, ces outils, toutes les bonnes pratiques qu'on a apprises, comment est-ce que vous voyez ça peut venir travailler les compétences transférables dans une salle de classe?
Bien, les compétences transférables, d'abord, on parle de communication, on parle de collaboration et on s'entend qu'en ligne, en ce moment, c'est deux choses qu'on fait énormément. Mm-hmm. Alors, on est en train de communiquer, que ça soit en direct avec l'enseignant ou avec l'élève, que ça soit par écrit, que ça soit dans une tâche, que ça soit comme la communication joue un très, 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 très grand rôle dans ce qu'on fait en ce moment. Alors ça, si on réintègre le format avec Team l'année prochaine, ben il y a des chances que ça soit fait. Et quand on collabore, généralement, il faut communiquer.
Oui, puis une partie de la communication au 21e siècle, c'est savoir quel outil utiliser. Tu sais, je mets pas la même chose sur Twitter que je mets sur Facebook, que je mets sur Snapchat. Alors, les élèves doivent savoir, selon l'intention, quel est l'outil que j'utilise. Puis, j'aimerais ajouter aussi une autre compétence transférable serait la citoyenneté mondiale. Puis, en ce moment, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde qui pourraient être l'objet d'un projet, des objectifs du développement durable ou autre chose. Espérons que par le temps que septembre nous revient, il y aura certaines choses qui seront réglées, mais la technologie nous donne la possibilité de s'ouvrir vraiment sur le monde, d'avoir un impact sur le monde, de communiquer avec le monde.
D'avoir une voix pour ceux et celles qui ont peut-être moins dans un monde qui n'est pas virtuel.
Ouais. Pourquoi pas, avec tous les outils qu'on a appris, c'est de présenter tous ces outils aux élèves et pour qu'eux autres, ils décident qu'est-ce qui est le meilleur outil pour faire une certaine tâche. Parce que, alors, ça vient travailler toutes ces compétences-là en même temps.
Ainsi que la pensée critique. Qui est super important. Si vous avez une compétence, qu'une compétence à travailler avec vos élèves, travaillez la pensée critique. On en a besoin dans le monde.
Oui. Puis je dirais que même chez les plus jeunes, et parce que quand Jen et moi, on avait travaillé sur l'utilisation de l'iPad, moi, j'étais dans une classe de maternelle-jardin. Et même en maternelle-jardin, les enfants sont capables d'avoir... De bien choisir l'application avec laquelle ils veulent communiquer leurs pensées et leurs projets. Alors, on n'en avait pas mille des choix, là. On en avait quelques-uns. On avait le ThingLink, on utilisait aussi le picolage pour permettre le ThingLink d'être plus complet. On utilisait aussi le Adobe Spark. Alors, les enfants, tout dépendant comment ils voulaient communiquer leur projet, savaient exactement quelle application choisir et... Comme au départ, on leur montrait comment faire, là, mais après... C'est bon, madame, je vais...
Oui, élèves étaient capables d'enseigner à un autre élève comment utiliser l'application.
Oui, il ne faut pas avoir peur avec les petits.
Je voulais ajouter, puisqu'on parlait de la communication, qu'une chose que moi, je vois beaucoup de beauté dans tout ce qui s'est passé dans la communication avec le foyer. Puis, tu sais, le projet dont tu avais parlé, Mylène, avec la soirée pizza. Comment est-ce qu'on pourrait utiliser la technologie pour continuer, pour prolonger, pour maintenir cette relation qui a beaucoup apporté? Ça fait en sorte que, tu sais, l'élève se sent entourée de communauté quand je sais que les parents et l'enseignant se voient, se parlent, tout le monde fait partie de leur monde. Alors, je me disais comme enseignante, et peut-être que c'est pas réaliste, peut-être que c'est parce que je ne suis plus en salle de classe que je trouve que c'est une super bonne idée, mais je me disais, peut-être une fois par mois, en plus d'envoyer une lettre à la maison qui dit « voici les thèmes du mois, il faut des bottes, c'est presque l'hiver, on fait une sortie, le 15, il faut apporter un fruit, on va faire une salade de fruits », pourquoi pas faire une dizaine de minutes? Les parents savent l'utiliser maintenant. Vous avez un Teams ou vous avez un Google Classroom, un 10 minutes, 15 minutes de soirée virtuelle où on parle aux enfants puis aux parents. Mm-hmm. Et tous les parents qui veulent se connecter peuvent être là et ils peuvent nous voir, nous parler. On ne veut pas que ça devienne la soirée de parents-enseignants où ils posent des questions sur leur enfant, mais une soirée de qu'est-ce qui est nouveau dans la salle de classe.
Oui, j'adore cette idée-là. Puis en fait, je pense que c'est vraiment faisable. C'est pas parce qu'on n'est plus dans la salle de classe qu'on pense gros, mais en fait, il faut penser gros. Puis je reviens au commentaire que je sais pas c'est qui l'avait dit au dernier épisode, c'est que c'est ce qu'on veut, c'est vraiment augmenter la transparence. C'est de savoir que on veut que les parents soient au courant de ce qu'on fait. Puis quand on était, quand je vais le retourner à notre méthode ancienne, c'est que des fois, on sait pas comment engager les parents. T'sais, on envoie une lettre, on envoie des courriels, est-ce qu'ils vont les recevoir, est-ce qu'ils vont les lire? Non. Mais si on leur donne encore une autre chance de faire cette connexion-là avec nous, de bâtir cette communauté, je pense que les possibilités sont infinies. Alors, c'est, encore une autre fois, ce n'est pas un remplacement, mais dans ce cas-là, c'est un bel ajout à nos pratiques.
Oui, c'est au lieu de faire plus, c'est juste faire autrement. Parce que ultimement, la lettre que tu vas envoyer à chaque mois aux parents, là, c'est pas vrai qu'elle te prend 10 minutes à écrire.
Non.
C'est une. Tu l'écris un premier jet, tu y reviens, est-ce que les gens vont bien comprendre, est-ce que blablabla. Tandis que la rencontre, elle se fait de vive voix, prend 10 minutes, prend 5 minutes à préparer. Alors, c'est pas vrai que c'est plus de temps. C'est juste du temps différemment. Parce qu'on en parlait avec dans la série sur la RAI, sur la réponse à l'intervention, comme quoi que le décloisonnement, c'est plus de temps, c'est plus de temps, c'est plus de temps. Mais la vérité, c'est que c'est du temps qu'on aurait pris ailleurs de toute façon. Alors, c'est comment est-ce qu'on peut faire plus sans pour autant mettre plus d'énergie, mais juste de faire autrement.
Ouais.
Puis, je trouve que le temps qu'on investit dans la relation avec les parents, on gagne du temps, on gagne de la santé mentale.
C'est un
investissement. Puis plus tu investis là-dedans en début d'année, je prenais des notes sur quelque chose que chaque élève dans ma classe faisait. Et à la fin de la journée, j'envoyais une note à la maison avec une photo de l'élève qui disait, ça c'était au jardin, avec une photo qui disait « Ali a passé une belle journée, il a joué dans le carré de sable avec des amis, puis j'envoie une photo. » Le parent sait que je vois son enfant. Mm-hmm. Puis son enfant, c'est l'affaire la plus précieuse dans le monde pour ce parent. Alors, de savoir que j'ai pris le temps d'observer son enfant, puis d'envoyer une note, c'est très, très rapide. Ça m'a pris du temps. La première journée, j'ai pas mangé, je suis pas allée à la toilette, j'ai imprimé, je réimprimé parce que tu vas à l'imprimeur puis la photo n'est pas là. Mais ça, c'est bien. Puis si les élèves savent que vous êtes bienveillants, que vous voulez du mieux, ce qui est du mieux pour leur enfant, tu sais, ils vont pas te juger de la même façon que s'ils n'avaient pas eu de communication dès le début.
Oui. Puis d'ailleurs, je pense que c'était un des soucis des enseignants au début de cette période-là, on va juger, on est dans la maison, on est chez quelqu'un, les parents vont nous voir. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé d'après ce que j'ai observé, d'après les rétroactions que j'ai eues des enseignants, c'est que, en fait, les parents ont vu un côté de leur enseignement qu'eux autres, ils n'auront jamais été exposés. Puis ils sont tellement plus contents, ils embarquent plus dans tout ce que l'enseignant propose, justement parce que les parents voient ce que l'enseignant fait, puis l'effort que l'enseignant met dans l'enseignement.
Et les parents sont extrêmement reconnaissant de ce que les enseignants sont en train de faire. Parce que si tu regardes sur les médias sociaux, je pense qu'on n'a jamais eu autant de gratitude envers l'enseignant, là, envers le corps professoral, et ce, à travers le monde. Et pour nous, Via Monde, vous regarderez en ligne, il y a énormément de parents d'enfants Via Monde qui sont excessivement reconnaissant de ce que Via Monde a apporté dans ce temps de pandémie, parce que les gens disent, OK, mon voisin, lui, il a 20 minutes de temps en direct avec son enseignant par semaine. Puis notre enfant en a 30 par jour, en plus de l'apprentissage à la maison. Alors, Via Monde a su se démarquer par rapport à ça. A été un chef de file! Et je pense que les parents l'ont super bien reçu, comme... Si ça me donne le goût de pleurer, là.
Ah, ben oui. À chaque jour, les positifs, on va recevoir des positifs et des négatifs, mais les positifs, c'est tellement parlant que ça veut dire que toutes les bonnes choses, comme je disais tout le temps, les bonnes pratiques en salle de classe, les bonnes pratiques en virtuel, mais encore une autre fois, cette fois-ci, c'est vraiment de comment transférer les bonnes pratiques qu'on a apprises en virtuel, mais de les remettre dans une salle de classe.
Je pense qu'on vient de trouver le titre pour cet épisode. Les bonnes pratiques en virtuel sont les bonnes pratiques en salle de classe.
Alors, est-ce qu'on a oublié quelque chose?
Bien, je pense que ultimement, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que, comme Béatrice, notre collègue, l'a dit, c'est que dans les derniers mois, on a eu un apprentissage grand V à faire, en vitesse grand V à faire, en lien avec la technologie au profit de l'enseignement, de comment apprendre en ligne et tout. Mais là, c'est pas parce qu'on retourne en salle de classe en septembre que je dois prendre tout ce que j'ai appris et le mettre de côté. Parce que l'utilisation de Flipgrid, ça se fait en salle de classe. L'utilisation de BookReader, ça se fait en salle de classe. L'utilisation de Padlet, de Zorbit, de la classe inversée, de tout ce qu'on a parlé dans les formations, c'est absolument possible de le mettre en place en salle de classe. Et je pense que certains d'entre nous étaient peut-être plus inquiets à utiliser la technologie, mais là, on s'est rendu compte qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir parce qu'on est capable. Et même que c'est plus facile lorsque les élèves sont avec nous en salle de classe parce qu'on est là pour modéliser avec eux, on est là pour leur montrer où cliquer, mais que ultimement, tout ce qu'on a appris, ça ne s'en va pas à la poubelle. Au contraire, il faut trouver qu'est-ce qui nous convient le mieux puis comment le réinvestir dans notre classe en présentiel. Et tout est question d'équilibre et d'intention pédagogique.
Mesdames, est-ce qu'on peut avoir un aperçu de ce qu'on va faire la semaine prochaine?
La semaine prochaine, on va parler avec quelques enseignants de la maternelle jusqu'à la sixième année, une enseignante ressource, et on va leur parler de leurs expériences pendant l'enseignement à distance et puis leurs témoignages.
Ouais. Et de voir comment est-ce que cet apprentissage à distance-là a transformé leur vision de l'enseignement.
Alors, encore une autre fois, merci beaucoup. Toujours une belle discussion avec vous. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cette émission. Vos animatrices sont
Jennifer Bansal-Davies,
Mylène Brassard
et Vicky Fauteux. Nous aimerions remercier les directrices des services pédagogiques au Conseil scolaire Via Monde. Les illustrations ont été créées par Francis Fauteux et le logo a été créé par Mylène Brassard.
La musique est de Ralph Grant et elle a été enregistrée au studio de production Guérin.
Suivez-nous sur Twitter à Tout pour et sur Facebook sur notre page Pour toute la classe. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre courriel Gmail à pourtoutelaclasse.gmail.ca.